C'est 23.
Ça tient la route. Le balado pour les vrais amateurs de voitures. Voici votre animateur, Benoît Charest.
Salut tout le monde. Alors, cette semaine, on va parler avec des gens de FNCO. Je le sais, on vous avait prévu faire quelque chose avec Honda. On a reporté ça, c'est pour le 23 mars. Petit changement de dernière minute, comme ça, ça arrive. Mais FNCO, c'est une compagnie qui a été fondée en 2006 par trois ingénieurs ici au Québec.
Compagnie montréalaise.
Voilà, compagnie montréalaise. On va parler avec David Arsenault tantôt, qui est son président et cofondateur de la compagnie. On va également, évidemment, faire nos essais routiers. Cette semaine, Alain, tu vas essayer quoi?
J'ai essayé quelque chose de pas mal plus gros que je pensais, le GV80 de Genesis, en version de base, le modèle avec le moteur 2,5 litres.
Qui, personnellement, est le modèle que j'ai le plus aimé. Ben, on reviendra tantôt là-dessus.
Il y a un consensus, ouais, on pourra reparler définitivement.
Exactement. Moi, je vais parler cette semaine du CX-30 Turbo, que j'ai eu l'occasion d'avoir en essai semaine dernière.
C'est mieux que le Mazda 3 Turbo.
Oui, c'est plus intéressant, c'est différent. Ça aussi, on va y revenir. Et évidemment, on a, comme à chaque semaine, nos actualités pour partir le bal. Alors, Alain, là, tous les amateurs qui attendaient le retour possible de Peugeot en Amérique du Nord,
ouais, oubliez ça.
Retenez pas votre souffle, comme on dit.
Non, oubliez ça.
Ça se passera pas.
Pour de bon.
Explique-nous ça, Alain.
Écoute, ça fait des années que la rumeur circule, vient, en fait, là, que Peugeot veut faire un retour en Amérique du Nord.
En fait, on avait même nommé Larry Dominique, que je connais.
Exactement.
Qui était aux relations publiques de Nissan aux États-Unis pendant des années. Bonhomme charmant, d'ailleurs. Et lui avait été nommé, ni plus ni moins, pour essayer de mousser la candidature de Peugeot pour un retour nord-américain. Mm-hmm. Et là, Stellantis a mis la hache dans toute la patente, puis dit, bon, c'est fini.
Ben, ils ont retrouvé, ils ont, je sais pas si on peut dire que c'est une promotion, mais ils ont trouvé un nouvel emploi à M. Dominique, qui s'occupe d'Alfa Romeo pour l'Amérique du Nord.
Alors, j'étais pour dire que la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est qu'on va tenter de redorer le blason d'Alfa Romeo, parce que Alfa Romeo a des produits intéressants, mais on est à la recherche de clientèle. Hein, il s'en vend pas beaucoup. Et là, on a mis Larry Dominique à la tête de la division nord-américaine d'Alfa Romeo pour justement là, tenter de donner un second souffle à la marque.
Exactement. En fait, Alfa Romeo et les autres marques déjà connues du groupe Stellantis, qui est l'ancien groupe Fiat Chrysler, jumelé à Peugeot Citroën. Donc, les marques de ce groupe-là en Amérique du Nord vont avoir droit à un peu plus de visibilité, ça veut dire surtout, en tout cas parce qu'on les connaît, ils ont des produits très populaires, Jeep et Ram.
Ouais.
Alfa Romeo aussi va probablement bénéficier de cette stratégie-là, de se concentrer sur les marques déjà établies. En fait, on s'entend, là, ce sont des marques qui ont leurs défis déjà en tant que telles, en plus qu'elles doivent maintenant s'incorporer dans un nouveau groupe.
Ben voilà, tu sais, il y a 14 marques qu'il faut trouver, chacun doit trouver un peu sa niche,
exact,
sa clientèle, et c'est probablement le premier grand défi de Carlos Tavares. D'ailleurs, on s'est donné 100 jours chez Stellantis parce que j'ai appelé moi pour avoir une entrevue comme les autres constructeurs et on m'a répondu que pour parler spécifiquement de Stellantis, c'est motus et bouche cousue pour 100 jours le temps d'établir une stratégie, de mettre toute l'affaire sur pied, si on veut. On va probablement avoir un invité. Là, je travaille là-dessus pour parler des produits, pour parler des modèles. Ça, il n'y a pas de problème. Mais pour parler de la nouvelle entité Stellantis,
les produits actuels, ça va être facile d'en parler. Les produits à venir pour la marque Chrysler, entre autres, puis Dodge aussi, ça va être intéressant. Je ne sais pas à quel point il va falloir être patient parce que le catalogue n'est pas extrêmement garni.
Le catalogue n'est pas garni. C'est sûr qu'il y a des possibilités du côté de Peugeot, c'est-à-dire que PSA, là, vois-tu, on a déjà annoncé la semaine passée qu'on allait construire une plateforme commune pour Jeep, Alfa Romeo et Fiat, un véhicule plus petit que le Renegade. Mm-hmm. Donc, un VUS sous-compact d'entrée de gamme.
Un très petit VUS.
Et on se servirait d'une base qu'on a déjà chez PSA.
Exact.
Et on ferait 3 véhicules. Donc, en fait, c'est à ça qu'il faut s'attendre. S'il y a une électrification possible qui s'en vient du côté de l'ancien FCA, ça va passer par, par PSA, c'est sûr.
Ils ont déjà leur technologie.
Voilà, ils ont déjà... Tu sais, la recherche et le développement, c'est fait. Alors, il s'agit à ce moment-là d'habiller le modèle et d'y trouver une robe qui est différente.
Exact.
Puis, on a un produit.
Ça va être de voir si Chrysler et ou Dodge vont ressembler à des Peugeot nord-américanisés. GM a déjà fait le coup avec Opel et Buick il y a un petit bout de temps quand Buick marché était à peu près moribond, à peu près inexistant dans le marché. Écoute, je vais placer l'expression Chrysler Crossfire ici dans la nouvelle parce que dans l'histoire de Chrysler, ça s'est déjà vu des véhicules.
Avec Mercedes.
À l'époque où c'était Daimler Chrysler, donc avec Mercedes et son fameux coupé. On avait créé un coupé sportif, plus ou moins sportif, et cabriolet, là, le Crossfire, au courant des années 2000.
Le SRT6, j'étais allé au lancement de ça. J'étais allé au lancement du SRT6.
Je me rappelle aussi. On a fait les trois, le coupé, le SRT6 et le cabriolet.
Et c'est une belle petite machine, honnêtement. Puis pour
à part qu'on voyait rien dans à peu près aucune direction, sauf en avant.
Oui, mais j'avoue que dans les... Je pense que dans les rares voitures qui vont finir par devenir...
Dont on va se rappeler un peu.
Qui vont avoir une certaine valeur de collection. Mm-hmm. Je pense qu'un Crossfire SRT6, ça peut se placer là un jour. Parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup.
Le Prowler, pour d'autres raisons, qui était complètement d'un autre niveau.
Oui, qui était... Mais tout ça
nous ramène à une époque où Chrysler essayait des choses. Oui. C'était plus audacieuses que dans les dernières, disons, 10 années.
Faudra retrouver ça quelque part.
Et c'est peut-être ça qu'on va aller chercher, effectivement, avec cette nouvelle union-là, en tassant Peugeot et en donnant à ces marques-là plus de visibilité en Amérique du Nord. Ça va être à suivre, évidemment. 100 jours, on est à combien? On est à quoi? 40 à peu près?
8 janvier, faites le calcul. Février, mars, on est à peu près, mettons, à 60 jours.
Bon, on s'en reparle dans un mois et demi.
Tant qu'au mois de mai, on va commencer à en avoir des nouvelles.
Exact.
Alors, parmi les nouvelles intéressantes, on a annoncé il n'y a pas longtemps la IONIQ 5. Souvenez-vous à l'émission, ici, Jean-François Taylor en avait parlé. Bon, ben, on a vu ce matin des... J'ose pas dire des photos.
C'est même pas une esquisse, c'est quand même...
En fait, on a vu l'ombre d'un véhicule.
On a vu la première dimension.
Exact. C'est, en fait, ça va s'appeler le EV6, qui est sur la même base que l'IONIQ 5. Donc, on s'est servi de la plateforme électrique de ce véhicule-là pour, évidemment, bon, on est chez Kia, fait qu'on s'attend à quelque chose d'un peu plus sportif, d'un peu plus, je dirais, un peu plus... haut de gamme, on a tendance à monter en grade un peu du côté de chez Kia.
C'est bien là, ça. C'est Kia qui est la marque haut de gamme par rapport à Hyundai, mais c'est pas toujours évident, ça.
Ouais, c'est pas toujours évident, mais tu sais, on essaye de donner une tendance un petit peu plus sport, un petit peu plus performant. Mais là, on dit qu'on va partir avec les mêmes bases, c'est-à-dire qu'il va avoir un modèle d'entrée de gamme avec un seul moteur de 215 chevaux roue motrice arrière. Et il va avoir le modèle à deux moteurs qui va avoir 302 chevaux qui va alimenter évidemment les quatre roues. On va être capable aussi de recharger sur du 800 volts. Les batteries vont faire 58 kWh ou 77,4 kWh.
Plus intéressant cette deuxième version.
Et le 15 mars, donc ça c'est lundi de la semaine prochaine, on devrait avoir, en fait, on va avoir les vraies photos. Alors, donc, on devrait avoir le modèle au grand complet, mais on nous lançait un peu ce matin un petit peu là les premières esquisses.
Une mise en bouche, comme on dit, dans le monde de la restauration. Voilà. Hey, parlant d'électrique, Benoît, je vais te parler d'un truc qu'on va voir justement le 3 avril, ce qui est un petit peu plus tard que maintenant.
Hey.
C'est la version VUS du Hummer EV de GMC.
Oui, qu'on a annoncé, effectivement.
On a vu de l'information en masse sur la camionnette. Le VUS était évidemment toujours inclus dans le projet. Là, on a vu un peu plus d'informations sur ce qui s'en vient en termes de dévoilement. Ça va être dévoilé donc le 3 avril, date stratégique aux États-Unis, puisque ça va se faire dans le cadre du Final Four, le fameux championnat de basketball de la NCAA. Ah,
alors que personne n'écoute ça à la télé.
C'est absolument pas du tout connu ni populaire, effectivement. Mais c'est un événement, donc, évidemment, vous avez compris qu'on blaguait. C'est très, très connu, très populaire. Un bon moment pour parler d'un gros pick-up et d'un gros VUS, je roule meilleur, exprès, là, électrique, avec tout l'aura qu'on peut imaginer de la marque Hummer.
T'sais. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'on ramène le Hummer et, en tout cas, les les quelques ombrages et photos en une dimension, comme tu dis, qu'on a vu, laisse présager qu'il sera pas plus petit que l'ancien H2.
Clair que non, non.
Mais là, il est électrique. Alors, on peut pas être contre la vertu.
Est-ce qu'un gros VUS électrique est mieux qu'un gros VUS à essence? Évidemment, il pollue moins. Ce qui est intéressant, c'est que selon les rumeurs, quand on parle dans l'industrie des fabricants, des fournisseurs de pièces, la cadence de production de GM anticipé pour le Hummer EV VUS, là, écoute, on va lui trouver un autre nom éventuellement, là.
Oui.
50 000 exemplaires par année à partir du moment où il va être fabriqué, qui est tôt l'année prochaine.
Ah, oui.
Commercialisation en 2023. Donc, on se dit, 50 000 VUS électriques, il y a une demande pour ça, mais le prix de détail commence au-dessus de 100 000
$. Oui, mais c'est
donc,
pour ça que j'ai dit c'est
120
beaucoup.
000, donc,
mais regarde.
C'est ambitieux.
Regarde Tesla. Tesla a battu la classe S, la ouais. série 7, la A8, en vendant des Tesla S à 100 000 $ et plus, là, ouais. facilement. Puis,
est-ce que GMC peut se redéfinir avec un Hummer de luxe? Est-ce que ça peut devenir
Ça serait quand même assez drôle.
C'est sûr que ça va être un véhicule extrêmement high-tech. C'est la fameuse technologie de pile Ultium qui va animer ce véhicule-là. On parle d'une autonomie qui pourrait atteindre 700 km par charge, qui en ferait un véhicule non seulement très gros, mais très très polyvalent, très autonome, très puissant aussi. Là, le moteur électrique est extrêmement puissant. On a vu plusieurs, quand la camionnette a été introduite du Hummer EV, on a vu plusieurs petites innovations intéressantes qui n'ont pas nécessairement à voir avec le groupe électrique, là, comme le fameux mode de fonctionnement en crabe, là, pour le sortir
de
façon latérale.
Le crawler en anglais. Là,
ouais, je préfère en crabe, je trouve qu'on va le traduire, ça vaut la peine. J'ai hâte de voir si le VUS va avoir des choses comme ça pour justifier son prix de détail ou si ça veut juste être pour profiter de l'engouement vers des véhicules électriques.
C'est sûr que quand on va dans ces prix-là, on est capable de rendre le véhicule payant. Quand on le vend à 35, 40 000, c'est sûr qu'on fait pas d'argent. Quand on dépasse les 100 000, on est capable de se tirer un profit. J'ai hâte de voir cette approche-là, comment ça va fonctionner. Une petite nouvelle rapide en terminant. Pour ceux les amateurs de F1, simplement pour dire qu'Aston Martin, cette année, va se joindre à Mercedes pour les véhicules de sécurité sur les parcours. On va faire ça en alternance. Aston Martin va avoir une Vantage spécialement préparée pour les Grands Prix de Formule 1. Donc, on ajoute un peu de puissance, 25 chevaux. On va être autour de 528. Ironiquement, c'est un moteur AMG qu'il y a dans la Vantage. Donc, Mercedez est pas très, très loin.
C'est pas ça. Tant que ça.
Puis l'autre modèle, la voiture médicale, le véhicule médical, ça va être le DBX, qui lui aussi fonctionne avec un moteur Mercedes AMG. Mm-hmm. Donc, on se joint parce que ça fait 25 ans, hein, ça paraît pas, 1996 que Mercedes a commencé à être le véhicule véhicule de tête, véhicule médical. Bon, on avait certains véhicules qu'on amenait des VIP. Là, tout ça était géré par Mercedes. Et là, à partir de cette année, ça va être en alternance. Donc, un Grand Prix, ça va être Aston Martin. Un Grand Prix, ça va être Mercedes. Et on va amener ça comme ça. Alors,
Lawrence Stroll...
Lawrence Stroll, il a donné des grands coups parce qu'on n'a jamais autant entendu parler d'Aston Martin que depuis que M. Stroll est là. Donc, il faut quand même lui lever notre chapeau pour ça.
Ouais.
Puis bon, on en parle. C'est quelqu'un, un Québécois, M. Stroll.
Il a promis que tous les Aston Martin, tous les véhicules Aston Martin seraient fabriqués en Angleterre.
Exact.
Les futurs modèles.
Donc, c'est un homme d'affaires qui a réussi. Puis il a réussi parce qu'il y a de la hargne, il y a de la pogne. Puis je pense qu'il prend la même approche pour travailler du côté d'Aston Martin. Alors, on prend 2 minutes pour une pause et on revient après avec M. David Arsenault de la compagnie F&Co.
Ça tient la route avec Benoît Charrette, de retour après la pause. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette.
Salut! On est de retour. Alain Mécana, toujours avec moi.
Bonjour.
Alain, je rappelle que le balado « Ça tient la route » peut être écouté en ligne. Vous pouvez aller sur vos plateformes d'écoute préférées, Spotify, Apple, Google, le site du 98.5fm.ca, ici. Mm-hmm. Dans la section « Balado », vous avez tous les balados qui sont là. Et vous pouvez aller sur annuelauto.ca. Je fais une mise à jour chaque semaine sur le site et on met les balados les plus récentes en ligne. Voilà, c'est dit. Notre prochain invité est le président et cofondateur d'une compagnie qui s'appelle F&Co. Vous allez me dire, c'est quoi ça, F&Co? Il va nous en parler lui-même. C'est M. David Arsenault, une compagnie qui a été fondée en 2006 par 3 ingénieurs, dont fait partie David Arsenault. Monsieur Arsenault, bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Ben, ça va très bien. Merci de nous accorder du temps pour parler finalement d'une compagnie qui est bien d'ici. Pour les gens qui nous écoutent, FNCO, c'est qui ça exactement, FNCO?
Ben, comme vous l'avez dit, là, l'entreprise a été démarrée, c'était issu, disons, de mes études, moi et deux autres ingénieurs là, à l'ETS, des études, dans le fond, de maîtrise et de doctorat.
Okay.
Il y a un centre de l'Université ETS à Montréal, il y a un centre associé à l'université qui encourage, si on veut, les étudiants à se partir en affaires. Mm-hmm. Ça s'appelle le Santec.
Okay.
On a démarré là en 2006 avec une claque puis une bottine, si je peux dire.
Oui, ben comme beaucoup de jeunes pousses, hein, on part avec ce qu'on a entre les mains, finalement. Là.
Exact. À ce temps-là, c'était pas grand-chose. Mais c'était très bien parce que ça nous a permis, nous, de se concentrer sur la R&D les premières années. Là, c'était okay. Beaucoup de développement. On a développé à peu près 4 générations d'architectures hybrides. Même au début, on avait d'autres notions. On utilisait même des pompes hydrauliques puis des accumulateurs hydrauliques. T'sais, on essayait de trouver la façon là, de... C'est dans le fond, FNCO, c'est pour efficacité énergétique. On essayait d'améliorer l'efficacité énergétique des camions lourds. Au fil des années, je dirais que notre spécialité, ça a vraiment été autour des données. On s'intéressait beaucoup à la course automobile, nous autres, puis tu sais, dans ces années-là, il y avait beaucoup de télémétrie. C'était le début des télémétries en course automobile. Fait que nous, on a comme appliqué la même chose.
Ouais, puis je me rappelle que l'ETS était très impliqué aussi. Dans des courses, on fabriquait des modèles de courses du côté de l'ETS. Je me rappelle d'avoir fait des entrevues avec des étudiants là qui avaient été dans des championnats mondiaux et qui avaient très bien performé, d'ailleurs, au demeurant.
Fait qu'on était les trois ingénieurs, on était issus de ces concours parascolaires-là là, qui s'appellent la Formule SAE.
Oui.
Comme des voitures de course qu'on faisait. Comme vous l'avez exactement dit, là, il y avait des compétitions en Angleterre puis aux États-Unis. Mais tu sais, au début, après avoir gradué notre bac, j'avais des offres en Formule 1. C'est bien le fun, la Formule 1, mais t'sais, on a réalisé bien vite que ça tournait en rond, puis ça brûlait du gaz, puis on s'est dit peut-être qu'on devrait.
effectivement.
Quelque chose de plus noble.
Ben, en fait, la Formule 1, c'est un divertissement. Alors, vous vouliez aider un petit peu plus que ça.
Exact. Non, c'est exactement ça. Puis, puis c'est vrai, puis je suis encore un gros fan. Je vais chaque année au Grand Prix, mais on s'est dit il y a un problème peut-être un peu plus gros, là, qui est les changements climatiques.
Ouais.
Fait que dès le début, on a dit on va, c'est comme bon ingénieur, on va trouver une solution au problème, puis on a juste choisi, disons, le problème le plus gros de notre génération. Là.
Exact. C'était intéressant. Puis votre technologie était intéressante aussi parce que vous utilisez des super condensateurs. Ça, on voit pas ça tout le temps.
On n'entend pas parler souvent.
Mais j'aimerais que vous nous expliquiez de façon vulgarisée c'est quoi un super condensateur, puis qu'est-ce que ça fait pour, je dirais, non seulement améliorer le rendement, mais aussi un rendement beaucoup plus vert. Ça, il faut le dire. Là.
Oui. Bien, un super condensateur, c'est que ça fait essentiellement la même fonction qu'une batterie. Ça accumule de l'énergie électrique, mais ça le fait d'une façon différente. Une batterie, c'est une réaction chimique. T'sais, on pense au lithium, des batteries acide-plomb. Dans le cas d'un condensateur, il n'y a pas de réaction chimique. C'est vraiment de l'électrostatique. C'est comme si ces deux plaques sont vraiment proches. Puis un peu comme quand il y a de la statique sur nos vêtements, là, ben les électrons sont accumulés comme ça.
OK.
Fait que c'est pour ça qu'on peut ça. On peut cycler des millions de cycles. On peut sortir beaucoup de puissance sans qu'il y ait de dégradation. Fait qu'on n'a pas le phénomène, tu sais, de dégradation comme on voit dans les batteries lithium-ion.
Ouais, les lithium-ion, que ce soit notre ordinateur, notre téléphone ou même la voiture, là, on perd un pourcentage d'efficacité avec les années, là.
Puis c'est encore pire quand il fait froid.
C'est clair.
À cause de la réaction chimique, tu sais, on sait que la réaction chimique est plus lente quand il fait froid, tandis qu'on n'a pas ces problèmes-là avec les condensateurs. Fait que ça, c'est des gros avantages. Le désavantage, c'est que vous ne verrez jamais une auto 100% électrique avec une autonomie de 500 km sur des condensateurs parce qu'on met moins d'énergie essentiellement.
Ah oui, OK. Donc,
c'est ça le moins bon côté, si tu veux. Là.
Mais on peut parler, parce que là, évidemment, c'est un processus qui est flexible. C'est-à-dire qu'on peut, avec un super condensateur, dire « bon, ben moi, je suis 100% électrique ». Je peux être partiellement électrique aussi. Ça dépend de l'attitude qu'on va adapter. Mais mettons, là, on parlait tantôt de poids lourd. Là. On parle d'un camion. Sur un super condensateur, si on disait, bon, ben on y va en 100% électrique, on parle de quoi comme autonomie? C'est 100 km, c'est 150, 200?
Mais c'est pour ça que le lien avec ce que je vous disais, avec les données, la télémétrie là qu'on a inspiré de la F1 est important parce que nous, puis vous faites bien de le mentionner, on s'est concentré sur les poids lourds. Puis même on s'est concentré sur les poids lourds qu'on appelle à caractère vocationnel. Ça veut dire c'est des camions qui font un travail là.
Les véhicules d'Hydro-Québec.
Les camions, camions de poubelle, par exemple.
Des camions de poubelle.
Camions de béton, les camions dans les ports, c'est des camions qui ont beaucoup d'équipements montés à bord, mais aussi qui, par définition, font beaucoup d'arrêts.
Exact.
Quand ils font leur travail, ils sont immobiles. Ils font pas de ils vont pas sur l'autoroute, là, ces véhicules.
Non, c'est beaucoup de ce qu'on dit en mauvais français, du stop and go, là.
Exactement. C'est exactement ça. Fait que nous, on s'est concentré sur ce type de véhicule-là. C'est pour ça qu'on a choisi une technologie un peu différente. Parce que, comme vous dites, on n'aurait pas beaucoup de range, on n'aurait pas beaucoup d'autonomie avec des condensateurs. Je dirais peut-être une 50 km maximum.
Okay,
on peut pas s'attendre à avoir plus que ça. Mais là, ce qu'on a ajouté, c'est nous, on a ajouté un système de recharge sans fil à induction. Puis qui fait que lorsque le véhicule s'immobilise par la nature de son travail,
il recharge,
c'est ça. Fait que là, dans le fond, on a juste besoin d'assez d'autonomie pour aller à la prochaine borne.
Ouais. Ce qu'on appelle, en fait, les autobus, on appelait ça du biberonnage. Autobus. Oui.
Un vieux terme.
Un terme que j'ai volé à Pierre Landlois. Je cite Pierre Landlois ici, mais Pierre avait parlé de ça en Europe, entre autres. Il y avait des autobus où tu avais une recharge c'est-à-dire qu'il y avait une recharge très rapide à chaque station où il arrêtait. On rechargeait un petit peu, on repartait. Fait qu'il n'y avait jamais beaucoup d'autonomie, mais c'est des trajets fixes que l'autobus fait tous les jours. Donc, on est certain qu'il manquera pas d'électricité. C'est comme si on part de Montréal pour aller à Matane puis qu'il y a zéro arrêt en chemin là. Donc c'est un peu le principe du vocationnel que vous faites de votre côté là.
Exact. Dans le cas d'un autobus, vous avez raison, c'est des notions qui existaient déjà. On sait le parcours d'avance parce qu'il arrête aux arrêts d'autobus. Nous, l'élément qu'on amène, c'est qu'on amène un algorithme d'intelligence artificielle qui peut prédire où le véhicule va aller. Fait que dans le fond, la façon la plus facile de le visualiser, nous, c'est dans un port. Tu sais, dans un port, on a plusieurs véhicules, les véhicules lourds qui déplacent les containers, les conteneurs, sont toujours dans le même, tu sais, dans le même secteur.
Ah, qui font un trajet fixe, là, qui vont d'un bout à l'autre du port, qui arrêtent au milieu, qui vont dans un coin, mais ils ont un trajet très déterminé dans un espace restreint, là.
C'est ça. Puis il y a beaucoup de véhicules. Fait que nous, on peut, avec les données, on peut dire, selon les calculs qu'on a faits, la majorité des véhicules s'arrêtent à ce point-là, ce point-là, ce point-là. Puis là, on dispose des bornes de recharge de façon stratégique comme ça.
OK.
À même le parcours naturel là, du véhicule.
Il n'y a pas à faire un détour pour se recharger, là.
Exactement. Il n'y a pas à se brancher la nuit. Tu sais, dans les ports, c'est des véhicules qui sont opérés 24 heures sur 24.
Exact. Oui, ça n'arrête pas un port.
Ben eux, ils aiment bien ça, l'électrification, mais il faut comme qu'ils s'ajoutent deux fois plus de véhicules parce qu'il y en a qui sont chargés pendant qu'ils utilisent les autres.
Faut pas changer les habitudes que les gens ont déjà au niveau du travail. Donc, si eux autres, parce que si, comme vous dites, M. Arsenault, on doit trois fois par jour arrêter pendant quatre heures pour recharger des véhicules, ça marche plus. On peut plus abattre le travail qu'on fait habituellement, là.
Ben écoute, moi je suis pour électrification. J'ai été un des premiers au Québec à avoir une Nissan Leaf là, en 2013. Fait que j'y crois. C'est juste que dans le type de véhicule sur lequel on travaille, là, parce que des véhicules vocationnels, c'est des fournisseurs de services essentiels, puis ils ont des contraintes qui sont particulières. Fait qu'on n'a pas eu le choix de se casser la tête et d'essayer de trouver une façon de résoudre ça. Là.
Ben, les bénéfices de votre technologie sont quand même chiffrables en termes de réduction de consommation puis d'émissions polluantes aussi. Dans des contextes comme le port de Montréal, par exemple.
Ben, tout à fait. Vous avez parlé de notre technologie hybride. Donc, on a un produit actuellement qu'on vend qui est la technologie hybride, qui est essentiellement éteint le moteur, utilise les condensateurs pour électrifier tous les équipements à bord. On atteint un 30% d'économie de carburant avec cette technologie-là. Puis là, la même technologie, nous, on va juste mettre plus de condensateurs puis ajouter, dans le fond, la fonction de recharge sans fil. Puis là, on va se rendre à 100%, tu sais, dans le fond, d'électrification des véhicules avec ça. Mais c'est les mêmes condensateurs, là, tu sais, qui est dans les deux produits qu'on offre.
Puis au niveau de la conversion, au niveau des coûts pour amener les véhicules qu'on a déjà, qui sont des véhicules à combustion interne, là, dans la grande majorité des cas, pour les amener à votre technologie, des coûts de conversion, on parle de quoi à peu près?
Ben, c'est des, dans le fond, on a, ça dépend de l'application. Si on prend notre technologie hybride, c'est très avantageux là. C'est un tiers du coût du véhicule là. Okay. Fait que c'est vraiment, on peut convertir un véhicule existant, mais on peut aussi, on a des clients comme la ville de New York, c'est notre bon client. Eux, ils achètent des véhicules neufs directement du fabricant Mack, c'est Mack Truck dans le fond. Puis nous, on envoie nos systèmes à l'usine. Puis là, c'est moins cher dans ce cas-là où on l'envoie à l'usine directement, c'est installé sur un véhicule neuf par Mack.
Ah, OK, OK. Donc, c'est Mack qui installe en usine votre système sur le véhicule.
Exact.
Ah oui, ah, ça c'est intéressant, là.
Est-ce que le plan d'électrification du gouvernement américain va vous être bénéfique, le plan de transition?
Bien, la ville de New York, là, ça fait 7 ans qu'on travaille avec eux. Tu sais, aux États-Unis, c'est le fédéral a moins d'impact sur la réglementation. Les États ont vraiment beaucoup de contrôle.
Ouais.
Puis l'État de New York puis l'État de la Californie, ils ont toujours gardé le cap sur l'électrification. Mm-hmm. Puis là, on voit là que la nouvelle administration avec Biden, ils ont de l'aide à être plus motivés à continuer dans la foulée peut-être que ce qu'Obama faisait avant. Mais pour nous, ça n'a rien changé à New York. La motivation est toujours restée, puis ils ont gardé les mêmes priorités. Mais ils sont effectivement très progressistes et ils veulent pousser l'électrification le plus possible. Je vais prendre l'exemple.
On dit toujours à la blague que nul n'est prophète dans son pays. Est-ce que ici au Québec ou au Canada, vous avez des projets semblables qui sont sur la table?
Oui, on en a au niveau du port, le port de Montréal, on a le groupe qui s'appelle Termont, qui est un des opérateurs au port de Montréal. Eux, ils ont converti leur flotte au complet, là, tous leurs véhicules dans le port avec notre technologie hybride.
OK, puis ça, on parle de combien de véhicules à peu près?
C'est à peu près une soixantaine de véhicules pour Termont. Ouais, non, c'est quelque chose d'intéressant. Puis ils nous ont donné une belle visibilité. Le groupe Termont a des actionnaires qui ont aussi des parts dans d'autres endroits dans le monde. Puis ça nous a aidés. Puis là,
ça vous fait une belle carte de visite.
Ben c'est ça. On est rentré au port de Los Angeles aussi avec un groupe qui est co-actionnaire de Termont. Fait que c'est port de Los Angeles au port de New York. Dans les ports, on a une bonne croissance.
Ben, écoutez, c'est très intéressant. Puis si on regarde d'autres projets, voulez-vous aller éventuellement ailleurs quand les véhicules lourds? Est-ce qu'on développe d'autres technologies en ce moment?
On sait vraiment, on a décidé de se spécialiser, là, de se concentrer sur ce créneau-là. Comme je vous disais, la technologie des condensateurs, elle s'appliquerait pas sur des véhicules qui vont sur l'autoroute. Là,
non, c'est clair. Là, je pense que vous l'avez bien expliqué. Là, c'est vraiment pour des véhicules de proximité. Là.
C'est ça, de proximité, puis qui font un travail. Puis tu sais, des véhicules comme ça, ils s'en produisent quand même pas mal, là, à peu près 2 millions à chaque année dans le monde qui s'en produit. Fait que c'est quelque chose, c'est un bon marché. Ouais. Pour
vous avez un bon bassin, finalement.
Ça devrait nous garder occupés. Ouais.
Ben écoutez, David Arsenault, merci beaucoup pour votre temps. C'était très intéressant. Alors, vous irez voir ça, FNCO, E-F-F-E-N-C-O. Compagnie québécoise établie ici à Montréal. On parlait à son président et cofondateur David Arsenault. Merci encore, M. Arsenault.
Merci, ça a été un plaisir.
Nous, on va à une pause et on revient après avec nos essais routiers.
Ça tient la route avec Benoît Charrette, de retour après la pause. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette.
Et voilà, portion essai routier de l'émission. On a essayé cette semaine. En fait, moi, je l'ai essayé la semaine passée. Cette semaine, j'hésite parce que cette semaine, j'ai un Dodge Durango avec l'espèce de moteur de fou là-dedans, là, le SRT, là,
le Durango.
Qui est un trou à gaz. Là, mm-hmm. On va appeler un chat un chat. Et j'ai la petite GLA de Mercedes.
Fait que, ah oui.
Qui est beaucoup plus raisonnable.
Autrement plus sympathique. Oui,
oui, plus raisonnable, plus intéressante. À mon goût, à moi. Là,
pas nécessairement plus facile à acheter, là, mais...
Non, mais c'est ça. Alors, je vais vous pondre quelque chose pour la semaine prochaine. On va finir nos essais. Moi, j'ai essayé je l'ai roulé pour le vrai. Là, je suis allé du côté de... On avait des essais avec Lexus, d'ailleurs. Je vais peut-être revenir là-dessus la semaine prochaine. On est essayé des systèmes 4 roues motrices.
Dans la neige.
Mécaniques et électriques.
Ah, c'est une bonne façon de comparer les deux.
Et c'est pas la même chose. Et j'avoue que ces exercices-là, habituellement, je trouve ça un peu lourd, là, parce qu'on en a fait au cours des années.
Ça vient souvent redondant, en fait.
Ouais. Ça vient redondant. Mais là, d'abord, on avait des bonnes conditions d'hiver. C'est froid. Deux, on a réellement vu une différence entre un système où tu as un arbre de transmission, un lien mécanique avec la roue qui est là tout le temps, c'est mm-hmm. permanent, donc quand ça glisse, ça réagit là, et un système, en fait, électronique, parce que le moteur électrique à l'arrière, il n'y a pas d'arbre de transmission, il n'y a pas de lien physique entre les roues avant-arrière. Donc, il y a une espèce de petit délai électronique avant que ça embarque. Dans des conditions normales, vous verrez probablement jamais la différence, mais dans des conditions extrêmes, là, on va revenir là-dessus.
Sur une piste de course bien enneigée.
Il y a une certaine différence. Et pour m'y rendre, j'étais en Mazda CX-30.
Ah, ben oui, ben voilà.
Turbo, le nouveau modèle Turbo. Et ma foi, j'aimais le modèle avec le moteur 2.5, là, appelons-le de base.
Peux-tu parler d'un VUS de luxe? Parce qu'on est rendu là avec Mazda, parce que c'est quand même un VUS qui se distingue en étant un peu bon, plus richement garni, mettons.
Tu mets le doigt sur exactement la question que je me suis posée quand je roulais. Parce que Mazda compare ce modèle-là à des X1 chez BMW, à des Q3 chez Audi, à un GLA que j'ai cette semaine. Donc, on compare ça avec des modèles de luxe. C'est 36 350 $. On va fixer le prix. Là.
Pour
c'est
un
ça
petit
que ça coûte.
VUS, là, c'est pas
Et si on prend un Mercedes, le GLA part à 37 000 et des poussières. Donc, on est littéralement dans les mêmes prix. Le Q3 est plus cher. C'est 40 000 et plus un Q3 avant qu'on arrive dans quelque chose d'intéressant. Donc ça, il y a quand même il y a une marche. Est-ce que c'est assez pour nous sortir de la tête que Mazda est plus comparable avec Hyundai, Toyota, Nissan? Non. Honnêtement, là, non. Puis je vais expliquer pourquoi. C'est luxueux, mais c'est pas luxueux comme les Allemands.
C'est pas le même genre de raffinement, disons-le comme ça.
Si Mazda décidait, par exemple, de faire une version signature de son CX-30 Turbo, qu'on amène ce qu'on voit dans les autres modèles signature de la gamme, là, je dirais, OK, peut-être que, mais là, on va arriver où avec le prix? Tu sais, puis des compagnies comme Toyota, Nissan, même Hyundai avec Genesis ont compris si on veut aller chercher une clientèle plus haut de gamme, ben il faut avoir des véhicules qui ne se rattachent pas nécessairement à la gamme populaire qu'on vend.
Ouais.
Bon, Mazda, il a déjà pensé.
Il y a un historique de quoi faire avec le marché de
la division Amati avait été mise sur pied. Moi, je me rappelle d'avoir assisté il y a très longtemps au salon de Tokyo. On est en 80. C'est 95 ou 99, je suis plus sûr de l'année. Je pense que c'est 99, mais on avait là discuté en caucus avec les gens de Mazda de la fondation de la division Amati. D'ailleurs, le Millennia, si tu te rappelles, Mazda, ce modèle-là devait à la base être un modèle Amati. Puis finalement, on a laissé tomber la division Amati et on a décidé de garder Mazda. Mais ça va être très difficile pour Mazda de se comparer à des modèles allemands qui sont vus comme plus haut de gamme. Mais honnêtement, si vous courez pas après 4 anneaux ou 2 reins ou je ne sais plus comment le nommer.
2 reins.
L'étoile d'argent.
BMW, là.
Oui. En fait, les reins ont beaucoup grossi depuis quelques années. Mais blague à part, ça reste un très bon véhicule. Mm-hmm. C'est la puissance du moteur. Écoute, on est à 250 chevaux et on a 310 livres-pied de couple. Ça marche, là. Écoute, j'ai mis à peine 6 secondes pour faire un 0-100. Et ça se conduit comme une voiture. En fait, c'est une Mazda 3 un petit peu plus haute sur pattes parce que c'est la Mazda 3 qui sert de donatrice, si tu veux, au niveau de la plateforme, au niveau de l'espace. On est passablement au même endroit. C'est un petit peu plus grand qu'un CX-3. C'est pas aussi grand qu'un CX-5. Ça vous situe en termes...
On a déjà dit que c'était comme un peu un CX-4.
C'est un CX-4, mais c'est le Japon, la Chine qui a le droit unique à ce nom-là. C'est assez spacieux si vous n'avez pas une famille avec des enfants plus haut que 8 ans. Alors, à partir de 9-10 ans en arrière, là, ça commence un peu à être serré. Mais cela dit... dans ce que j'ai conduit de comparable à ce prix-là, dans les modèles que moi j'appelle domestiques, là, les modèles à grand volume, que ce soit Toyota, Hyundai, Kia, Nissan, nommez-les, C'est de loin le véhicule le plus drôle à conduire. Il est amusant, il est rapide, il est précis. C'est un très bon véhicule.
Est-ce que parce que je sais que le CX-30 non turbo avait un petit peu bruyant au niveau de la mécanique. On entendait le moteur gronder des fois.
Oui.
Est-ce que ça s'améliore un peu, ça?
Oui, mais pas assez pour que je la jette pas. Mm-hmm. Comprends-tu? Oui, ça pourrait être mieux. Mais tu sais, il n'y a pas de voiture parfaite. Il y a des compromis que des gens vont accepter plus que d'autres. Tu sais, des gens qui n'ont pas besoin d'espace à l'arrière vont être très bien dans le CX-30. Mm-hmm. Tu sais, c'est un format relativement petit, mais extrêmement plaisant à conduire. Puis le modèle turbo est un peu plus silencieux que le modèle régulier. Moi, je suis, puis j'ai fait de l'autoroute, là. Je suis allé, j'ai fait 5 heures aller, 5 heures retour avec un ou deux détours, là. J'ai mis 1000 kilomètres.
La consommation doit être pas mal non plus.
La consommation, ça, vois-tu, j'ai pas été impacté. J'ai fini à 9,9 litres au 100.
Puis
en faisant presque uniquement de l'autoroute. Bon. Est-ce que je mets le blâme sur le moteur turbo? En partie. Est-ce que je mets le blâme sur les quatre roues motrices? En partie aussi. Est-ce que je mets le blâme sur la boîte à 6 rapports? Est-ce qu'on ferait mieux avec 8 rapports? Probablement. Mais cela dit, ouais, c'est pas catastrophique. Mais pour donner une idée, j'ai roulé avec un Q3, j'ai roulé avec un X1, avec les modèles 4 cylindres 2 litres turbo. OK, 2 litres, c'est un peu plus petit que 2,5, mais j'ai roulé sur l'autoroute à du 8.1. Fait qu'on est presque à 10.
Ouais. Non, puis Mazda, on s'attend à ce qu'il fasse bien.
Ben, Mazda, surtout avec la technologie SkyActiv.
Exact.
La technologie SkyActiv approchait en termes d'économie de carburant des modèles diesel là, dans des petits moteurs. Là, on a voulu pousser un peu plus loin. Le 2.5, c'est un assez gros 4 cylindres. Mm-hmm. Le turbo, évidemment, puis les 4 roues motrices sont là. Fait que tu sais, il y a pas mal de choses qui font en sorte qu'on augmente un peu. Mais cela dit, c'est pas la fin du monde. Et le réservoir est pas grand. C'est 45 litres, cette chose. j'ai arrêté en chemin parce que je me rendais pas, même avec tous les efforts, j'y aurais mis.
Un peu court,
donc,
ouais,
peut-être un 10, 15 litres de plus, là, ça ferait le travail. Mais cela dit, si vous voulez un CX-30 et que ça vous tente, je vous dis oui, allez-y. C'est un excellent véhicule.
Ben, le turbo est quand même assez bien.
Absolument. Absolument. Mm-hmm. Puis, parlant de turbo, t'es allé dans le turbo, toi aussi.
Parlant de VUS turbo, mais on change un peu de registre, là.
On est plus grand, là.
On parle du GV80 de Genesis. On a déjà parlé à la balado, évidemment,
oui,
à l'émission. Donc, en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'hésitais entre parler du GV80 avec ce fameux moteur 2,5 litres turbo ou de la G70, qui a aussi, évidemment, le même moteur. Mais je pense que pour l'acheteur moyen, je pense que le VUS est probablement le modèle le plus attrayant entre les deux. Donc, ça vaut la peine d'y revenir. Alors, j'ai pris une approche un peu différente, vu que tu en avais déjà parlé. Je suis allé avec la question suivante. Avait-on vraiment besoin de ce nouveau VUS-là? Je pose la question parce que plusieurs de ces composants, quand on embarque dans le véhicule, semblent emprunter à d'autres véhicules. Et pas nécessairement des véhicules Hyundai. Là, évidemment, je vous passe l'origine et la filiation du 4 cylindres turbo, là, pour l'instant. Mais si on remarque attentivement le tableau de bord, le système multimédia, c'est exactement la même interface que le iDrive de BMW. Donc, c'est quand même emprunté au même fabricant. On a un peu revu, bon, la forme des boutons, des choses comme ça, mais ça reste
un système qu'on peut trouver ailleurs. Le modus operandi est le même, là, effectivement.
Exactement. Puis, dans la plupart des configurations, on trouve des choses qui se trouvent ailleurs. Le système électronique d'aide à la conduite, c'est le même qu'il y avait dans le Kia Sorento que j'ai essayé la semaine dernière. Donc, c'était quelque chose qui existe ailleurs. Et ça revient à la même question que tu viens de poser. C'est drôle, on se rejoint sur la question de c'est quoi un véhicule de luxe à la fin de la journée. T'sais, est-ce que c'est une marque? Est-ce que c'est une atmosphère? Est-ce que c'est les gadgets embarqués? Et dans ce cas-ci, on dit souvent un véhicule de luxe, c'est un véhicule qui est unique. Dans le cas du GV80, c'est une question qui se pose. Est-ce que c'est vraiment un véhicule unique? Parce qu'en fin de compte, il emprunte des technologies qu'on trouve ailleurs dans des véhicules qui coûtent beaucoup moins cher.
Exact.
Ou qui sont...
En fait, on est pigé dans la boîte à outils, c'est ça.
Ouais.
Tu sais, moi, je donne toujours l'exemple de deux marques qui sont très proches, puis qu'on n'a jamais nécessairement fait le lien, Volkswagen et Audi. Beaucoup.
Exact. C'est
les mêmes moteurs, c'est les mêmes châssis, mais t'as jamais l'impression dans une Audi d'être assis dans un Volkswagen.
Mm-hmm.
Parce que le tableau de bord est unique, parce que la décoration est unique, on retrouve pas, oui, peut-être caché, là, les coussins gonflables, les choses comme ça, mais l'atmosphère générale est pas le même.
Le comportement est aussi assez différent.
Et le comportement est différent. Donc, je pense que c'est ce que les gens doivent ressentir quand ils sont dans ce genre de véhicule-là.
Ben, et c'est un peu la même chose qui se passe dans le cas du GV80. C'est vraiment un gros VUS, avec des guillemets, c'est quand même pas le plus gros, mais quand même qui est assez confortable et qui joue la carte du luxe et du haut de gamme sur cette notion de confort-là. Écoute, son prix de détail entre 65 et 70 000 $ selon le modèle. Là. Ouais. C'est sûr que c'est pas un véhicule Hyundai, c'est pas quelque chose que les gens vont dire. J'hésite entre le Santa Fe et quelque chose de plus haut de gamme, puis je vais acheter ça. Ça, y a aucune.
Est-ce que Genesis a probablement transporté qui a fait la popularité de Hyundai? Pour le prix demandé, le véhicule arrive à peu près tout équipé.
C'est vraiment ça. La fiche technique est longue.
T'achètes une Porsche de base. À part le volant P4 roues, il n'y a rien là-dedans. Faut que tu mettes 25, 30 000 $ là, sans effort avant d'avoir un modèle équipé dans le sens du monde, là, pour parler une expression populaire. Alors que chez Hyundai, il y a à peu près trois options parce que tout est là ou à peu près là.
Exactement. Non, puis donner un exemple de cette technologie embarquée-là qui est assez généreuse. Le régulateur de vitesse est adaptatif. Donc, évidemment, il s'ajuste à la vitesse des véhicules devant nous. Mais il est doté d'une notion d'apprentissage machine. Si jamais vous avez un génie, vous pourrez dire ça en conversation, ça se glisse très bien. Ça s'emprunte, c'est une technologie empruntée en fait à l'intelligence artificielle. En gros, c'est des algorithmes qui permettent.
En fait, le système apprend comment vous conduisez.
Apprend à s'adapter à comment vous aimez que lui se comporte pour justement s'adapter. Exact. Donc c'est un système intelligent qui sait vraiment à mon avis une notion haut de gamme. On trouve pas ça dans un Hyundai ou dans un véhicule de base. Donc ça c'est une belle addition. Puis évidemment, bon, comme tu le disais, tout équipé en rouage intégral de série, tout le reste. Truc étonnant, puis je sais pas si c'est une anomalie, sur l'autoroute, j'arrivais à faire à peu près 8 litres au 100 km. Ce que je m'attendais vraiment.
J'ai fait du 8.3, moi, avec le moteur 2.5.
Donc, parce que justement, l'autre question, c'est est-ce que j'y vais avec le moteur de base ou est-ce que je prends un V6?
Ouais.
Qui est la version plus haut de gamme du GV80. Puis, tu l'as dit d'entrée de jeu tout à l'heure, au début de l'émission, je parlais avec des collègues aussi en allant récupérer le véhicule. Pas mal tout le monde s'entend pour dire que le 4 cylindres, 2,5 litres.
C'est en masse. Honnêtement, c'est ce qui fait. T'as pas besoin de plus que ça. T'as suffisamment. Écoute, t'as pratiquement 300 chevaux.
Exact. T'as 300 chevaux.
T'as 300 chevaux. C'est plus qu'il en faut pour faire avancer le véhicule. Et le fait que le moteur est plus léger. Je trouve que dans la dynamique de conduite, ça paraît. Le 6, oui, est plus puissant, mais il est plus lourd. Puis on sent qu'il est un peu plus paresseux au niveau de la dynamique de conduite aussi.
Voilà. Puis, évidemment, on disait que c'est quand même relativement gros véhicule. Le véhicule VUS intermédiaire. Il vient avec une troisième rangée de sièges à l'arrière, si vous voulez. C'est vendu en option.
Ouais.
C'est une banquette, appelons-la une banquette d'urgence. C'est pas quelque chose
que tu j'appelle ça j'appelle ça un 5+2.
Exactement. Mais ça peut, écoute, ça a son utilité. Surtout si on a des enfants, on peut évidemment charger ou configurer les sièges pour.
Exact. On va l'utiliser le plus souvent qu'autrement, la troisième rangée baissée. Mais si vous avez deux amis de vos enfants à l'école qui ont besoin d'un.
Ça arrive que ça sert.
Exactement.
Bref, Genesis n'est pas encore Audi ou Lexus. J'ai peut-être plus Lexus qu'Audi, en tout cas. Mais le GV80 est clairement un véhicule. Écoute, c'est un véhicule assez unique pour justifier son existence, à mon avis. Il y a évidemment de la gueule. Écoute, c'est un véhicule qu'on peut pas ignorer sur la route.
Je pense que c'est un véhicule qui va faire sa place. On devait réussir chez Genesis, surtout avec un VUS, mais je pense que si les autres sont à l'image de son Natal GV70, puis on va préparer d'autres modèles qui vont s'en venir, mais si c'est à l'image du GV80...
C'est un peu le véhicule qu'il fallait pour identifier, pour donner une personnalité à la marque.
Je pense que ça va être intéressant.
Un bel essai.
Merci Alain. Alors nous, c'est déjà tout pour cette semaine. La semaine prochaine, on va avoir Mazda en entrevue. J'ai déjà confirmé avec
Mazda,
eux.
Mazda, tu parles du dieu de la religion. Hein?
Et on va également aussi avoir parlé, évidemment, d'autres SROC, des actualités. Alors, merci d'avoir été là. Et on se retrouve la semaine prochaine.
Ça tient la route. Un balado C23 produit par le 98.5. Abonnez-vous à Ça tient la route sur Apple Balado, Spotify ou Google. Un nouvel épisode vers midi, tous les jeudis. Après la pause, Patrick Lagacé en accéléré, le résumé de la semaine.
C'est 23.